Philippe vient de nous rejoindre au téléphone. Allô Philippe ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, comment vas-tu ?
Ça va, ça va.
Voilà, donc tu nous appelles et aujourd'hui tu vas nous parler de deux choses. Initialement, on avait prévu de parler essentiellement de du blog que tu tiens, Passeur d'Hospitalité, et tu vas aussi nous parler des derniers rebondissements. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, mais les choses s'accélèrent peut-être. Des derniers rebondissements, donc de l'actualité calaisienne avec les évacuations prévues.
Oui. Par quoi veux-tu qu'on commence ?
Bon, on peut commencer par exemple, l'actualité brûlante avec ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer, en tout cas des annonces faites de l'évacuation de la, entre guillemets, jungle, en fait, du bidonville d'État qui est prévu pour la semaine prochaine.
Oui, a priori, qui commencerait le 17, sauf résultat contraire des recours juridiques. Donc ça on ne sait pas en fait, mais c'est vrai qu'il y a une jurisprudence qui se consolide par rapport aux expulsions sans solution, et que tout dépendra de l'évaluation que fera le juge des solutions de relogement proposées par l'État.
Ouais.
Entre parenthèses, une bonne nouvelle dans ce monde de brut.
Oui.
Il y avait une procédure d'expulsion contre le campement de Noranfont. C'est la mairie ainsi que les propriétaires du terrain privé où sont le campement ont été déboutés de leur demande. On a eu le résultat aujourd'hui.
Oui, on vient de l'avoir. En fait, je l'ai eu aussi au moment où je partais. Mon message, dernier message au moment où je partais, et c'était donc l'information que la demande des propriétaires des terrains où est installé le camp de Noranfont, hein, c'est à la fois la mairie et un propriétaire privé, avait été rejetée.
Ouais.
Voilà, peut-être donc, tu peux nous en dire un petit peu plus.
Oui, au niveau de la destruction du bidonville, puisque voilà, ça dépendra de la manière dont le juge appréciera la situation, sachant que l'une des grosses inconnues, c'est ce qui va devenir des mineurs.
Mmh.
On a un plan de l'État, en fait, pour envoyer les gens en bus dans des centres d'accueil et d'orientation un peu partout sur le territoire. Ça dépendra aussi de la manière dont le juge apprécie ça comme solution de relogement adaptée. Et puis, les mineurs, on ne sait pas trop. Et effectivement, ça pose plein de questions sur le dispositif qui serait mis en place. On a une communication du gouvernement qui est de dire on va résoudre ça, au moins pour une partie des mineurs, avec le Royaume-Uni.
Mmh.
En fait, il y a déjà un accord qui a été conclu au sommet d'Amiens. Donc ça, c'était en février ou mars cette année.
Mmh.
Donc le problème devrait être résolu, puisque les procédures sont censées être mises en place. Sauf qu'elles ne fonctionnent pas au compte-gouttes très lentement. Donc voilà, un peu il y a ce coup de pub qui sort du chapeau avec le Royaume-Uni, qui rappelle d'après Sangatte, on se partage un peu les gens. Mais il n'y a pas vraiment de solution qu'on voit poindre. Par contre, on en sait de plus en plus sur le dispositif policier. L'État jugerait qu'à peu près 80% des personnes relèveraient de l'asile et partiraient en CAO, et puis il resterait 20%, et un commissariat mobile va être installé à proximité du bidonville pour examiner la solution de ces 20%, et en fonction de l'examen qui, bien sûr, sera longuement individualisé, puisqu'il y aura 20% de 10 000 personnes, ça fait 2 000 personnes. Voilà. Il est dans le commissariat pour une distribution d'OQTF, le cas échéant, obligation de quitter le territoire français. Donc, a priori, il y aura une généreuse distribution, sauf si les gens partent dans la nature d'ici là. Le but de toute cette opération, c'est aussi de semer la panique.
Mmh.
Oui, il y a des gens qui partent pour l'instant. Le démontage du camp de réfugiés à Grande-Synthe s'accélère. Il y a des gens qui en ont été chassés. Il y a une descente de police pour fermer les petits commerces qui s'étaient créés aussi dans le camp. Ce qui rappelle la descente de police contre les commerces au mois d'août à Calais, et puis celle qui a eu lieu plus récemment de nuit. Donc on voit un processus qui est assez similaire qui se met en place à Grande-Synthe. Donc voilà un peu l'ambiance générale.
Ouais. Et donc à Grande-Synthe aussi, on détruit. Hein.
On démonte. Oui. Officiellement, c'est ce qui avait été décidé au moment où l'État a repris la gestion du lieu, a financé et a imposé un nouveau gestionnaire associatif. C'est qu'au fur et à mesure que les gens partaient, les abris étaient démontés et qu'il n'y aurait pas de nouveau accepté, sauf cas humanitaire particulier. Dans les faits, les gens qui ne sont pas admis entrent quand même, et du coup c'est les passeurs qui géraient les admissions, ce qui n'était pas une situation très saine, et on avait une réaugmentation du nombre de personnes sur le site, qui était passé de 700 personnes à 950 000. Donc voilà. Maintenant, et puis il y avait un espèce de voilà, l'État laissait faire. Mmh. Là, visiblement, il passe un démontage plus énergique. Des gens qui s'installent sont mis dehors et il commence à y avoir une pression qui s'accroît aussi. Donc ça veut dire que à très court terme, il y a aussi des campements qui vont se reformer ailleurs dans le Dunkerquois. Mmh. Voilà. C'est le retour des jungles, en fait. Mmh. Sur Calais, il ne s'agit pas simplement du bidonville, c'est qu'a priori, le vidage et le démontage du camp de conteneurs et du lieu de mise à l'abri des femmes et enfants au centre Jules Ferry est prévu aussi.
Ok, donc on a créé, l'État a créé un bidonville hein, qu'on appelle le machin de la Lande, là c'est le camp de la Lande, ou qu'on appelle aussi le bidonville d'État. À l'intérieur, on construit pour une somme de, je crois, 17 millions d'euros.
Oui, j'ai plus la somme en tête.
Donc un camp en bidonville, un camp en conteneur, qui retient combien de places, le camp ?
1500 places.
1500 places dont les gens ne veulent pas vraiment aller, mais qu'on détruit à peine ouvert.
Et puis du coup, il y a 140 emplois directs de la vie active, plus les emplois indirects, vigiles, livraison de repas et autres, qui sont à peu près 200 emplois qui sont en jeu, quoi. Ouais. Donc voilà. Okay. Sachant que ce n'est pas complètement confirmé, et la vie active dit qu'elle n'en sait pas plus que ce qui a été annoncé de manière un peu indirecte. En tout cas, elle n'a pas eu d'infos précises sur la manière dont les choses vont se passer.
Voilà, donc ça, personne ne sait très bien, en fait, y compris des gens qui étaient aux réunions en début de semaine avec le ministre de l'Intérieur.
Oui, ce qui se précise, c'est le plan policier qui, visiblement, fuite bien en direction de la presse.
Voilà, et ça, j'ai lu, peut-être tu peux confirmer. Donc, il y a actuellement, je crois, 2000 CRS qui sont à Calais, on en enverrait 6000 de plus pour ce démantèlement.
Non. Ça doit dépasser les effectifs totaux au niveau national.
Ouais.
J'ai vu 19 compagnies. Je ne sais pas combien fait une compagnie, mais c'est déjà énorme.
Mmh.
Une répartition moitié sur le bidonville et moitié à tourner partout autour pour éviter que les gens se réinstallent ailleurs.
Ouais.
Donc une chasse dans tout le Calaisis. Et puis la toute dernière qui est parue dans le Point aujourd'hui, c'est ce commissariat mobile qui serait implanté à côté du bidonville pour distribuer des OQTF. Ce qui veut dire que les gens, ce serait probablement des OQTF sans délai de départ, qu'on testait dans les 48 heures.
Ouais.
Donc ça veut dire que si les gens font pas gaffe et qu'on teste pas dans les délais, ils se font réarrêter 3-4 jours plus tard. Voilà, l'OQTF.
Les placer en rétention et tout compliquer.
Ouais.
Et donc, y compris le centre, le fameux centre Jules Ferry qui met à l'abri les femmes et les enfants, devrait
il
aussi
ferme,
être fermé.
Il n'y aura plus de femmes et plus d'enfants.
Pardon ?
Il ferme puisqu'il n'y aura plus de femmes et plus d'enfants.
Oui, c'est pas idiot.
On enlève tout le monde, donc.
Oui, donc il n'y aura plus besoin.
Voilà.
Et ça, c'est en étant un peu cynique, c'est un très mauvais plan économique pour Calais.
Oui, ça va créer du chômage.
Bah oui.
Ouais.
Donc du chômage direct pour tous les gens qui travaillaient pour les grosses associations comme la Vie Claire. Et puis aussi, ça, il y aura moins de policiers, donc moins de gens qui travaillent à Calais, moins d'hébergement dans les hôtels, moins de repas livrés dans les restaurants, etc.
C'est pas gagné, en fait.
Pardon ?
Le moins de policiers, c'est pas gagné.
Oui.
Puisque s'il y a la moitié des gens qui sont expulsés, qui qui reviennent des CAO ou qui restent dans les environs, ça fait quand même quelques milliers de personnes qui vont dormir dans les parcs, les rues et sous les ponts de Calais. Ça commence à faire une certaine visibilité, ça veut dire que très rapidement, ça va se savoir que ça a échoué. Donc je pense que la chasse sera sévère et qu'ils vont maintenir des effectifs policiers importants pour faire de la chasse à l'homme.
Et puis les gens, donc on prévoit de les envoyer dans les, donc dans les CAO, dans toute la France, hein, les centres d'accueil et d'orientation. Donc avec des, je ne sais plus combien de cars, mais énormément de départs de cars par jour. Et bah, dans les CAO, en fait, on se rend compte que certains, ça marche plutôt bien, mais sinon, ça ne marche pas très bien.
Oui, 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 c'est complètement variable et ça varie notamment en fonction de l'implication du tissu associatif local. C'est-à-dire s'il y a un tissu de bénévoles autour qui s'investit pour véhiculer les gens quand c'est isolé à la campagne, faire des cours de français, collecter un peu des trucs pour améliorer la nourriture, collecter des vêtements, etc. Bah finalement, les gens se sentaient accueillis, qu'il y avait quelque chose un peu qui se construisait, des liens qui se tissaient, et ça se passe plutôt bien. Et puis il y a des centres où il n'y a pas ce tissu autour. Et où les gens ressentent vivement l'isolement. Il y a un accompagnement administratif qui est d'une qualité très variable d'un endroit à l'autre. On a une attitude complètement variable d'un département à l'autre, mais aussi dans le même département, d'un moment à l'autre, de la part des préfectures vis-à-vis des personnes en procédure Dublin.
Oui.
Bon, de l'expulsion jusqu'à la dédublinisation. C'est-à-dire on ne tient pas compte...
On va quand même rappeler que le règlement Dublin, c'est ce règlement européen qui impose à l'État par lequel les gens sont entrés, si leurs empreintes ont été prises, de s'occuper de la demande d'asile de la personne. Voilà, donc des gens qui sont un Soudanais qui arrive en Europe par l'Italie doit faire sa demande d'asile en Italie et non pas en France ou en Allemagne ou.
Oui. Du coup, la France va le renvoyer en Italie,
voilà.
Sauf si elle décide d'examiner sa demande d'asile.
Mm-hmm.
Donc, il y a des préfectures qui examinent directement les demandes d'asile, il y a des préfectures qui expulsent vers l'Italie, la Hongrie ou d'autres pays.
Mm-hmm.
Et il y a des préfectures qui stockent, c'est-à-dire que si la décision d'expulsion n'est pas appliquée dans les 6 mois, la France devient responsable. Donc il y a un certain nombre de préfectures qui stockent les gens pendant 6 mois de manière complètement absurde, sans les expulser, mais sans leur permettre de déposer leur demande d'asile en France.
Ok. Ok.
Mais et là, du coup, il y a des milliers de places qui sont créées, on ne sait pas quelle sera la règle du jeu, en fait. On a toujours un double discours de l'État qui, d'une part, dans ses circulaires, dit qu'il faut que les mesures d'expulsion, que ce soit Dublin, que ce soit application d'OQTF, etc., soient mises en œuvre. Mais en même temps, l'État dit aux associations « Non, ça c'est ce qu'on écrit parce qu'on ne peut pas écrire le contraire, mais on ne veut pas que ça se fasse. » Et puis on a dans la réalité des pratiques complètement variables d'une préfecture à l'autre.
Voilà, et puis donc on a vu pas mal de gens à qui on avait promis qu'ils ne seraient pas, comme on dit, dublinés, et qui l'ont été, et qui sont... qui avaient été envoyés donc, dans une précédente vague dans des CAO et qui sont revenus sur Calais.
Oui, on a aussi des retours sur Calais. De gens qui sont complètement paumés parce que dans leur CAO, il n'y a pas d'accompagnement administratif et qu'au moins à Calais, ils connaissent des gens et savent à qui s'adresser.
Ouais. Et puis peut-être maintenant, on pourrait aussi parler, à moins qu'il y ait des choses à ajouter, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et ben, c'est une actualité très chaude et les choses risquent d'aller très vite, donc il est tout à fait possible qu'on en reparle la semaine prochaine ou la suivante. On voulait aussi parler un petit peu de passeurs d'hospitalité.
Ouais. Donc il y a un blog créé il y a 2 ans et demi, qui succède à un autre blog, en fait, qui est Vibration Migratoire, qui était le blog de l'association La Marmite aux Idées. L'association a arrêté ses activités, donc du coup, j'ai recréé un blog dans la foulée, parce que ça semblait important de, de garder une source d'information indépendante des autorités sur ce qui se passe à la frontière britannique et en particulier à Calais.
Oui.
Donc voilà, c'est ça un peu le but du blog, mettre en valeur des aspects qui sont peu vus, notamment en termes d'auto-organisation des exilés, de solidarité, des choses qui sortent pas forcément au premier plan. Tenir informé de la situation et puis démonter aussi un certain nombre de discours officiels et de constructions comme ça, idéologiques.
Voilà, c'est une excellente source d'information pour savoir ce qui se passe sur Calais, et je dirais même Calais au sens large, hein, puisque le grand Calaisie migratoire, eh ben, il va... on pourrait dire que Paris et la Chapelle, c'est la grande banlieue de Calais. Et que la très grande banlieue de Calais, ça va jusqu'à Vintimille.
Oui, enfin, à moins que ce soit Calais qui soit la banlieue de Vintimille.
Oui, parce que...
Mais on a une continuité, effectivement, entre ce qui se passe sur les deux frontières. Et la frontière britannique, ça concerne aussi bien les Pays-Bas que la Bretagne.
Mm-hmm.
En tout cas, sur les modes de passage qu'on connaît. Après, il y a d'autres modes de passage... par exemple embarquer sur un cargo à Bordeaux ou au large de Bordeaux parce que quelqu'un vous emmène un petit bateau sur le cargo qui va vous emmener au Royaume-Uni, etc. On peut passer dans des containers, il y a plein de moyens qui peuvent concerner d'autres ports plus éloignés en fait.
Oui, ben c'est quand même une des voies de passage. L'Angleterre est en face et tout près, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Disons que les campements sont de manière privilégiée liés à un mode de passage qui est de se cacher dans des camions.
Mmh.
Après, il y a plein d'autres manières de passer une frontière quand on n'a pas le droit de la passer.
Et donc sur ton blog, tu informes énormément de tout ce qui s'y passe.
Oui, en tout cas, j'essaye, oui.
Voilà, puis je crois que c'est une des sources d'information très, très précieuse. Très, très, très précieuse. Donc tu peux donner l'adresse peut-être?
Oui, c'est passeur d'hospitalité.
Tout attaché.
Un mot sans accent,
ouais.
Et sans apostrophe. .wordpress.com.
Voilà. Et donc là tu traites et d'une actualité immédiate et en même temps tu arrives à prendre un petit peu de recul et à faire une analyse qui est en général très pertinente.
Ben, c'est important à la fois de mettre en perspective dans le temps, parce que c'est vrai que le temps médiatique est toujours un temps de l'immédiateté. On a l'impression que, paf, il y a plein de trucs qui tombent à un moment donné, sans qu'on comprenne comment c'est arrivé. Il y a énormément de choses qui se répètent aussi.
Mm-hmm.
Donc effectivement, c'est important de mettre en perspective dans le temps, de relier les choses, d'analyser un petit peu le contexte et de prendre un peu de recul.
Ouais, donc c'est quelque chose qui est tout à fait enfin, si on veut s'informer sur Calais, c'est en français, c'est la première des choses à lire. Et tu as aussi un audio blog d'ailleurs qui est couplé à ce blog-là.
Il y a un audio blog sur Arte Radio, mais maintenant il existe aussi une version en anglais de Passeur d'Hospitalité.
Ouais.
Passeur d'Hospitalité English.
Ok. C'est vrai que j'avais vu quelques articles en anglais, mais comme je lis plutôt en français, j'avais pas fait attention qu'il était repris en anglais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Philippe, peut-être tu as des choses à ajouter?
Non, je pense plus de nouvelles la semaine prochaine.
Voilà, donc on redonnera certainement des nouvelles la semaine prochaine, bonnes ou mauvaises. En tout cas, cette semaine on commence par une bonne nouvelle, ça tu l'as annoncé tout à l'heure, donc c'est que la décision du tribunal a rejeté la demande d'évacuation du camp de Noranfonte. Et donc, notamment, le juge a fait valoir qu'il n'y avait aucune urgence à demander une mesure d'expulsion, qu'aucun dommage imminent, qu'il n'y a pas de dommage imminent qu'il faudrait prévoir d'une façon ou d'une autre, et qu'aucune solution concrète et durable n'est proposée.
Oui.
Voilà. Puis, il y a d'autres raisons, et ça, on en reparlera sûrement la semaine prochaine. Avec Nan ou avec quelqu'un de l'association Terre d'Errance qui est sur ce camp.
Ouais.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe, et puis à la semaine prochaine sans doute.
Ouais, à bientôt.
Au revoir. Voilà, on était donc en direct avec Philippe Poinçon de Calais. Alors, très vite quand même, je vais proposer quelques éléments du journal que je n'ai pas fait en début d'émission, qui sont deux infos qui sont strictement RESFiennes cette semaine. Donc Abdoulaye, ça c'est l'autre, plutôt bonne nouvelle. Abdoulaye qui est un étudiant guinéen dont on a parlé les semaines précédentes, et on pourra d'ailleurs à son sujet réécouter l'intervention de Estelle du réseau Université Sans Frontières, RUSF, qu'on avait joint par téléphone pour notre émission du 28 septembre. On peut la retrouver sur http://resf.info/radio, donc qui nous parlait de Abdoulaye. Abdoulaye est enfermé au centre de rétention administrative de Vincennes, et son expulsion vers l'Espagne était prévue pour lundi, pour avant-hier, mais il est passé au tribunal administratif samedi dernier, c'était le 8 octobre, et il a été libéré. On est très content, mais son OQTF n'est pas levé, et monsieur Adjiza, qui est un papa kosovar de deux enfants scolarisés à Paris, lui n'a pas eu cette chance. Débouté du droit d'asile par l'OFPRA, il a reçu une OQTF, obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif. Et hier, il passait devant le juge des libertés et de la détention, le JLD, qui le maintient en rétention. Et on pourrait continuer. Et pour avoir encore ce genre d'informations et plus précises pour voir ce qui se passe dans votre coin, eh bien, allez faire un tour sur le site rsf.info. Et en attendant l'appel de Bernard, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute par exemple Manzane Sissé, que j'ai spécial dédicace à Abdoulaye, et c'est un petit peu, ça a été enregistré dans les années 70 par le Wintet Sextet, Manzane Sissé.